France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le Puy du Fou, visiter et revisiter l'histoire. Dans quel monde entre-t-on quand on franchit les portes du Puy du Fou ? Avec entre 2 et 3 millions de visiteurs par an, ce parc d'attractions est aujourd'hui l'un des plus fréquentés en France et en Europe. Mais quelle vision de la France et du monde le Puy du Fou sert-il ? Il y a un peu plus de 40 ans, cet endroit n'est qu'un petit domaine abritant les ruines d'un château, quand un sous-préfet décide de raconter l'histoire de la région, la Vendée. Et au cœur de cette histoire, les guerres que la Révolution a menées dans l'ouest de la France, faisant des dizaines de milliers de morts parmi les Vendéens. Mais le Puy du Fou sert autant cette histoire que celui qui la raconte. Ce parc devient la rampe de lancement de Philippe de Villiers. Réincarnation de Catelineau, la Roche-Jacquelin en Vendée, trublion sur la scène nationale, il se fera une place unique dans la droite française. Notre invitée aujourd'hui, Mathilde Larère, historienne, co-autrice du livre critique intitulé « Le Puy du Fou ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Romain Weber, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Juin 1989, Antenne 2. Sur le plateau de l'émission Apostrophe, Bernard Pivot parle du bicentenaire de la Révolution, dont le 14 juillet, deux semaines plus tard, sera bien sûr le point d'orgue. L'événement suscite un grand engouement. La France vit une sorte de révolution mania, mais qui n'est pas unanimement partagée. Robespierre, Danton, Louis XVI baignent encore dans un brouillard légendaire qui désigne de façon simpliste les bourreaux et les martyrs. Alors, courage Fillon. Même le cinéma français rechigne à traiter l'événement. Il a fallu que ce soit un Polonais, Wajda, qui ose aborder le cas Robespierre, sans tabou, dans son film Danton. La Révolution demeure, deux siècles plus tard, une affaire sensible, et particulièrement chez les descendants des victimes. Alors, pour débattre, Bernard Pivot s'entoure de plusieurs personnalités. Parmi elles, l'historien Jean-Noël Jeannonnet, un intellectuel élégant, ancien président de Radio France. Il est à la tête de la mission de commémoration du bicentenaire. À ses côtés, d'autres historiens de la Révolution, mais aussi un homme politique. Il s'appelle Philippe de Villiers et lui ne participera pas à la fête.
Je voudrais que l'occasion du bicentenaire nous permette, premièrement, que les livres d'histoire ne soient pas des livres de propagande.
Vous dites qu'ils ne le sont pas.
Je vous dis, premièrement, que les livres d'histoire ne soient pas des livres de propagande. Deuxièmement, que l'occasion soit saisie par le président de la République pour déboulonner les statuts de tous les criminels contre l'humanité. Robespierre, Marat, Saint-Just, Thurot, Carrier. Je voudrais vous poser la question suivante
vous
à tous.
Vous êtes un drôle de concours.
Monsieur Mazauric, restez poli, restez correct. Pas de terrorisme, s'il vous plaît. Les méthodes communistes, mais ici, nous sommes dans un climat de civilité.
Mais qui est-il, cet homme qui traite Robespierre de criminel de guerre et qui veut déboulonner ses statuts ? Eh bien, il a 40 ans, il est député et président du Conseil général de la Vendée. Catholique, de droite, il porte la mémoire des victimes des guerres vendéennes. Mais de quoi parle-t-on juste ? D'une guerre civile qui occupe 3 années de la Révolution, entre 1793 et 1796, avec des résurgences jusqu'en 1799. Et au cours de laquelle la République réprime, c'est vrai, une insurrection royaliste avec une grande cruauté. Bilan, entre 150 000 et 200 000 morts parmi la population. Alors, sur le plateau d'Apostrophe, Philippe de Villiers demande à celui qui incarne le bicentenaire de la Révolution, Jean-Noël Jeannonnet donc, de rendre des comptes.
Il faudrait qu'aujourd'hui, vous ayez un mot pour les victimes.
Oh, très volontiers, c'est très facile, 2 siècles après, de dire qu'on regrette infiniment. Comme vous, comme moi, qui ici ne regrette pas que des crimes affreux aient été commis dans cette conviction nationale. Là où je ne vous suis pas, c'est que vous ne cessez pas de nous répéter qu'on cache, qu'on dissimule, qu'on est un menteur du bicentenaire, qu'on est un peut-être...
On cache la mort pour ne pas gâcher la fête.
Mais on ne cache rien du tout, on ne cache rien du tout. La difficulté de ces commémorations, c'est que ça a été une rupture, parce que précisément il a fallu imposer contre des forces puissantes qui refusaient ces modifications, imposer les idées nouvelles. Et ça a été terrible.
Donc vous justifiez
pas
la terreur.
Mais non, je ne dis pas la terreur, pas un instant.
Vous connaissez la phrase de Benjamin Constant, « À vouloir justifier l'injustifiable, on risque de donner des armes à ceux qui calomnient ce qui est légitime. »
Philippe de Villiers vient de publier un texte. Il a pour titre « Lettre ouverte aux coupeurs de tête et aux menteurs du bicentenaire ». Et voilà ce qu'il écrit. « Si je m'adresse à vous, messieurs les turiféraires du bicentenaire, c'est parce que je sais que vous n'avez qu'un mot à la bouche pour étayer votre casuistique, l'histoire. L'histoire est du vrai qui se déforme, la légende est du faux qui s'incarne, dit Cocteau. Eh bien, la commémoration de la Révolution est à mi-chemin. Elle représente l'incarnation d'une déformation. Pour lui, l'histoire est donc affaire de légende. Il n'est pas d'accord avec les historiens, qu'à cela ne tienne. Depuis 11 ans, il écrit sa propre version. Ça se passe dans le bocage vendéen, dans les ruines d'un château qui s'appelle le Puy du Fou. Ce château pleure tout seul, entrailles ouvertes, et personne ne l'a jamais consolé. Ces lignes sont de Philippe de Villiers. Il faut reconnaître qu'il a une belle plume. Pour ceux qui aiment se laisser bercer par les légendes, c'est efficace. Voilà la façon dont il décrit le château du Puy du Fou. Nous sommes à l'été 1977, il a 28 ans, il vient d'une famille noble aux accointances royalistes. Il sort de l'ENA, il est sous-préfet de Vendôme, mais il se présente comme saltimbanque de conviction et, avant tout, comme vendéen. Et ce château, situé entre Cholet et La Roche-sur-Yon, attire son attention. C'est un bel endroit, un château assez largement détruit en briques roses et en granit roux. L'une des ailes est relativement bien conservée, mais le reste est en ruine. C'est un squelette de château. Et cela depuis que les troupes révolutionnaires y ont mis le feu en 1794. Mais alors, quel potentiel ! Villiers le sent bien et il veut mettre en œuvre son projet. Mais avec quel argent ? Eh bien, celui du Conseil Général. Voici ce qu'il propose. Acheter cette ruine pour en faire une sorte de musée vivant qui présenterait l'histoire vendéenne. Et pour convaincre du bien fondé de son projet, il a un as dans sa manche, un atout de taille. Le président du Conseil Général n'est autre que son père, Jacques de Villiers. Alors, le Conseil achète le château et son parc pour 750 000 francs. Villiers fils monte une association. Il entraîne avec lui les notables locaux et avec eux une armée de bénévoles pour jouer. Oui, jouer les rôles de leurs ancêtres. En tout cas, selon la version de Philippe de Villiers. Parce qu'il a écrit un scénario. Une grande fresque couvrant l'histoire de la Vendée du Moyen-Âge jusqu'en 1945. Une épopée qu'il veut mettre en scène dans un spectacle. Il a trouvé un nom, la Cinécénie. La première a lieu le 16 juin 1978. Des milliers de Vendéens assistent à une représentation d'une heure et demie dans ce décor extraordinaire. « Je vais les émouvoir », écrit Philippe de Villiers. « Je vais les toucher, je vais les faire pleurer. » De fait, en cherchant à émouvoir, de ce point de vue, Villiers dans la démarche artistique. Cette histoire est racontée par le personnage de Catherine du Puy du Fou, la châtelaine qui a achevé la construction du château. Comme un fantôme, elle décrit ce qu'elle a vu au cours des quatre siècles qui ont suivi sa mort. Et au cœur de ce récit figure le traumatisme de la région, la guerre de Vendée.
J'ai entendu crier les chefs, redoutables et superbes. Gatineau, Delbé, Bonchamp, Stofflet, La Roche-Jacquelin, Lescure, Charette.
...350 projecteurs, un système son de la meilleure technologie, 600 figurants. Les 12 communes environnantes sont mises à la tâche. Gratuitement, on a fabriqué les 2350 costumes, les faux fusils, les carrosses, les canons, les drapeaux, tout. On a débroussaillé, construit de grands vestiaires et monté des gradins pour jouer cette pièce géante. L'histoire est ensuite portée par un autre personnage, Jacques Maupilier, le gardien. À chaque génération, les Maupilier donnent à leur fils aîné le prénom Jacques. Alors, comme un seul homme, ce personnage traverse les époques. « Je traîne mes souvenirs avec mon baluchon humide, dit-il, et je colporte les nouvelles de métairie en métairie. Je porte avec moi l'histoire à tous les enfants du pays. » Au Puy du Fou, pour la Cinécénie, vous êtes assis sur d'immenses tribunes, emmitouflées sous des plaides. Et là, à 100 mètres devant vous, apparaît la silhouette voûtée de Maupilliers, lanterne à la main, démarche lente, sur la voie, à l'époque, de Philippe Noiret. Tout ça à la nuit tombée, frisson garanti. La première représentation, d'ailleurs, est un succès inouï. Des scènes de fêtes, de massacres, de reconquêtes, des fontaines de lumière, des effets qui plongent le château dans le feu, les flammes qui se reflètent sur l'étang, et des chevaux qui galopent sur l'eau. Mais oui, le Puy du Fou est un puissant hallucinogène rural. En tout cas, les spectateurs sont éblouis. Alors l'Italien court, bien sûr, et vient à la rencontre de Philippe de Villiers et des bénévoles en ce même été 1978.
Ça marche trop bien puisque les spectateurs ne sont pas très contents puisque la moitié des spectateurs à chaque séance, la moitié des 6000 spectateurs, puisque c'est à peu près la moyenne que nous faisons, sont assis sur l'herbe dans des conditions qui ne leur permettent pas de bien voir le spectacle. Et certains d'entre eux s'en plaignent, nous nous en excusons, mais ça n'est pas possible. Nous sommes débordés par rapport à tout ce que nous pouvions espérer au départ.
Au début, on ne savait pas dans quelle affaire on se mettait, parce qu'évidemment... On pensait que c'était une petite affaire, alors que maintenant, ça a tellement pris l'importance. Et évidemment, on est très heureux du succès de cette entreprise, mais enfin, encore que le mot entreprise est mal choisi.
Philippe de Villiers a compris que beaucoup de Français, dans cette décennie marquée par la mondialisation et la construction européenne, exprimaient une envie d'enracinement. Chez les Bretons, chez les Basques, les Corses ou dans le pays Qatar, s'exprime une volonté toujours plus grande de ce récit local. Le retour aux racines, dit Philippe de Villiers, sera la grande soif du siècle. Ce spectacle n'était prévu que le temps d'un été, mais il touche juste et l'affluence incite à prolonger l'aventure. Et si le Puy du Fou est amené à durer, alors il faut donner un nom à cette grande communauté de bénévoles. Ce sera les Puy Follets. Et non seulement ces Puy Follets se remettent à l'ouvrage pour préparer la saison suivante, mais ils agrandissent aussi leur cercle. Le Puy du Fou prend d'ampleur. Pour cela, il a l'appui d'un homme. Il s'appelle Jean-Marie Delahaye, c'est le maire de la commune sur laquelle se situe le château Les Épaisses. Il répond à complément d'enquête en 2023.
On a constaté que le Puy du Fou est devenu propriétaire de près de 300 hectares.
Oui, sinon plus. J'ai acheté les fermes. J'en ai acheté pour ma part 4.
C'est vous qui vous en occupiez?
Au début, tout.
Oui, mais sauf que c'est des terres agricoles au début.
Oui.
Il y a devenu une construction.
Oui. Ah, oui, on les a transformés pour les besoins du spectacle en zone constructible, utile. Je ne sais pas comment on appelle ça.
Comment vous avez fait pour faire ça?
Je suis maire. Attends. Je sais bidouiller. Hein.
C'est vrai qu'aujourd'hui, vous auriez des problèmes si vous faisiez ça.
Ah bah oui, c'est vraiment pareil.
Le Puy du Fou dégage des bénéfices qui sont réinvestis dans le patrimoine vendéen. Les spectacles grossissent, l'affluence grandit. Après Philippe Noiret, Alain Delon ou Gérard Depardieu prêteront leur voix. Mais le spectacle de Philippe de Villiers n'attire pas que les grands acteurs. Comment ce jour d'août 1980? C'est la troisième saison, la nuit est tombée, il est 22h45. Les milliers de spectateurs sont assis sur les gradins, le spectacle va commencer, quand apparaît un invité de dernière minute. Il sort des coulisses que Philippe de Villiers lui a fait visiter en le présentant aux bénévoles. Cet invité, c'est Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République soi-même. Il prend place sous les applaudissements et les regards curieux. Et il assiste à l'histoire racontée par Jacques Maupilliers. Le spectacle terminé, il remonte un chemin conduisant dans les ruines du château. Il est entouré d'enfants encore déguisés façon paysan. Puis il répond aux questions avec un bout de brioche vendéenne dans la bouche.
Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez du spectacle que vous avez vu ce soir ?
Un spectacle tout à fait remarquable. J'ai assisté à un certain nombre de spectacles de ce genre et je dois dire que c'est de loin le plus réussi de tous ceux que j'ai vus. D'abord parce que c'est un spectacle d'une très grande qualité et puis le thème, c'est-à-dire l'expression de la sensibilité vendéenne, est quelque chose qui touche tous les spectateurs.
Qu'est-ce que vous pensez de cette mémoire retrouvée des habitants du Puy-du-Fou et des...
Ce n'est pas une mémoire retrouvée, je crois que la mémoire n'a jamais été perdue en France, il ne faut pas le croire, mais je crois qu'il est très important de l'exprimer. Et le fait de faire revivre une collectivité, c'est une façon de, je dirais, de s'accrocher à la réalité de la France.
Voilà donc le président de la République qui donne une légitimité nationale à ce spectacle vendéen. De cette année 1980, Giscard fait la première année du patrimoine. Cette idée donnera lieu aux journées du patrimoine. Évillier n'a pas tort quand il dit que le retour aux racines sera la grande soif du siècle. Et cette idée n'est pas partagée que par la droite. Le Puy du Fou répond donc à une demande, et il continue de prospérer. L'été suivant, 1981, il attire 160 000 personnes. Les Puy-Follets montent maintenant leur journal et leur radio, Alouette FM, déjà très professionnelle et structurée. De grands journalistes y sont passés. Les premières campagnes de publicité dans le métro parisien suivent quelques années plus tard. Et ce succès incontesté, quel que soit le bord politique, vaut à son créateur d'être nommé au gouvernement. Philippe de Villiers devient secrétaire d'État à la culture dans le gouvernement de Jacques Chirac en mars 86. Et depuis son ministère, il organise pour son Puy du Fou une visite encore plus marquante que celle de Giscard. Vendredi 12 juin 1987, 5 Airbus sont affrétés depuis Orly. À leur bord, 1000 invités du monde de la culture, 500 journalistes et 170 députés et sénateurs. Il n'y a jamais eu autant de caméras et de journalistes autour du château. Des berlines s'arrêtent devant les allées et déposent leurs passagers qui se feraient un chemin dans une nuée de flashs. François Léotard, ministre de la Culture. Raymond Barre, ex-premier ministre. Alain Juppé, porte-parole du gouvernement. Mais parmi les invités, il y a un nom qui fâche. Villiers dit avoir convié tous les parlementaires. Or, en cette année 87, et pour la première fois, il y a 35 députés du Front National à l'Assemblée. Et son fondateur, Jean-Marie Le Pen, est attendu, lui aussi, en Vendée. Devant le malaise que ce convive suscite, c'est tout l'événement qui vacille. Tout d'un coup, Chirac n'est plus certain. Pascal et Juppé non plus. « Mais c'est pas moi qui l'ai invité, dit Philippe de Villiers, c'est invité tout seul. » Est-ce vrai? On ne sait pas. Mais après des hésitations, c'est près d'un tiers du gouvernement qui se rend au Puy du Fou, malgré la présence de Jean-Marie Le Pen, qui parle à la télé, alors que derrière lui se pose l'hélicoptère de Jacques Chirac.
Ah ben je crois qu'il y avait deux sortes de dîners. Il y avait un dîner des grands seigneurs et un dîner des manants. Moi j'étais avec les manants, mais c'est une compagnie qui me plaît plutôt.
Et puis, le voici, le voilà, Jacques Chirac. Alors, monsieur le Premier ministre, vous aussi, motus et bouche cousue.
La joie de venir voir un spectacle d'une exceptionnelle qualité.
Sur le plan politique.
Et je remercie les élus du département d'avoir permis à Philippe de Villiers de lui avoir donné toute l'impulsion nécessaire pour affirmer sa créativité.
Et Le Pen et la dizaine de députés FN ne dînent pas à la même table que les autres. Ils sont invités au buffet donné à quelques kilomètres du château, mais ils assistent tout de même au spectacle. En 10 ans, il s'est amélioré, ce spectacle. Il y a maintenant 1000 projecteurs et 3000 acteurs, toujours bénévoles. Et il semble qu'eux-mêmes soient très attachés au bénévolat. Cette soirée particulière du 12 juin 87 séduit tous les invités de marque. François Léotard, ministre de la Culture, s'exclame à la fin de la représentation « Ce soir, nous sommes tous des Vendéens ». Et, spectacle étrange, dans l'enceinte de ce château détruit par les révolutionnaires, le gouvernement trinque avec des Vendéens nostalgiques de la royauté à la santé de la République. Mais pourquoi s'être donné tant de mal pour organiser cette opération? Eh bien pour deux raisons. D'abord, Villiers est bien placé au ministère de la Culture pour savoir qu'un parc d'attractions du nom d'Euro Disney ouvrira prochainement ses portes en banlieue parisienne et que cela incite le Puy du Fou à accélérer son développement. Ensuite, parce qu'un anniversaire approche, 1989, le bicentenaire de la Révolution. Et Philippe de Villiers veut que le Puy du Fou occupe une place centrale dans son combat contre-révolutionnaire.
Mystérieux, écrivons-nous pendant la guerre.
si cher que je vous préfère mystérieux. Écrivons-nous pendant la guerre des lettres de feu. Et s'il n'y a pas de guerre, je vous en prie, Gilbert, trouvez une bataille au mieux. Préfère mystérieux. Écrivons-nous pendant la guerre des lettres de feu. Et s'il n'y a pas de guerre, je vous en prie, Gilbert, trouvez une bataille au mieux. Adieu, Gilbert de Claire. Adieu, adieu, adieu. Vos mots me sont si chers que je vous préfère mystérieux.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le Puy du Fou.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Été 1987. Un journaliste de FR3 Loire-Bretagne est installé dans les gradins du Puy du Fou et interroge un historien avec comme décor les jets d'eau et les ruines. Son nom, Jean-Clément Martin. Il est spécialiste de la contre-révolution et, comme le Puy du Fou, se présente comme un spectacle faisant rejaillir une histoire oubliée, le journaliste l'interroge sur sa fiabilité. Bien. Et il se trouve qu'un jeune homme de 26 ans intervient dans la conversation.
Oh, la vérité historique, vous savez, moi je ne la trouve pas beaucoup dans les livres d'histoire traditionnels, ni dans les manuels, ni dans 200 ans d'historiographie.
C'est vrai que j'ai 26 ans, et il y a 10 ans, quand je suis rentré au spectacle du Puy du Fou, je ne connaissais absolument rien sur les guerres de Vendée. Les livres d'histoire, en tout cas, n'avaient rien appelé sur cette page.
On aura assisté à un curieux sourire de l'histoire. Bruno, comment est-ce que vous préparez 89?
Comment est-ce qu'on prépare 89? Eh bien, on le prépare tout à fait sereinement.
Qui est-il, ce jeune homme de 26 ans qui s'appelle Bruno et qui dit n'avoir rien appris de la guerre de Vendée dans les livres d'histoire? Eh bien, c'est un jeune économiste que Philippe de Villiers a pris sous son aile. Il s'appelle Bruno Retailleau. Et lui aussi se forme à la politique en gravitant autour de ce parc, dans le sillage de Philippe de Villiers, d'abord au Conseil général de la Vendée, ensuite à l'Assemblée nationale. Et comment Villiers et Retailleau préparent-ils le 14 juillet 89, jour du bicentenaire de la prise de la Bastille? Eh bien, comme n'importe quel jour, rien ne se passera en Vendée, si ce n'est des cérémonies religieuses en l'honneur des victimes. En Vendée, on les appelle des martyrs. Alors, puisqu'il n'y a rien à célébrer au Puy du Fou en 89, on s'attelle à d'autres chantiers. On démonte la tribune en bois pour construire une tribune panoramique de 12 000 places. Et on lance un projet beaucoup plus vaste, le Grand Parc du Puy du Fou. Villiers veut faire de sa création un véritable espace consacré à l'histoire de France en mode ludique. Le Puy du Fou n'est plus seulement une association, il devient une société qui emploie 200 salariés et plus de 1000 saisonniers. On construit des hôtels, des restaurants. Villiers se met à l'écriture d'autres spectacles qu'il met en scène lui-même. Le Puy du Fou, ce n'est plus l'affaire d'une soirée. On y vient maintenant pour plusieurs jours. Et pour Philippe de Villiers, le seul bicentenaire qui vaille, c'est celui du début de la guerre de Vendée, 1793.
Alors 93, c'est quoi pour nous? En négatif, c'est la terreur. C'est la matrice du totalitarisme qui fonctionne ici en Vendée pour la première fois. Et en positif, c'est le geste héroïque des Vendéens qui se battent par-dessus des raisons matérielles qui n'existent pas, pour leur foi, pour la liberté de conscience, pour un principe, pour la liberté. Et je crois que ce qui devrait rester dans l'histoire de manière positive et donc propre à réconcilier tous les Français sur cette période, c'est ce geste-là.
Voilà donc le projet pour 1993. Non seulement rendre hommage aux victimes vendéennes, mais aussi considérer la Première République et ce qu'on appelle la terreur comme la matrice du totalitarisme. Alors, qui inviter ? Qui faire parler pour associer le sort des Vendéens à celui des victimes de tous les régimes totalitaires ? Philippe de Villiers réussit un coup de maître. 25 septembre 1993, commune des Lucques-sur-Boulogne. À cet endroit, le 28 février 1794, l'armée de la Révolution a massacré 564 habitants, dont 147 enfants. 200 ans plus tard, le Conseil Général, dirigé par Philippe de Villiers, décide d'ériger un mémorial en l'honneur des victimes vendéennes. 4 blocs en pierre sombre, qui renferment des pièces racontant l'insurrection et la répression. Devant ce monument, une stèle est recouverte d'une épaisse étoffe rouge. Une foule attend sous la pluie avec une mine d'enterrement. Puis chacun écarquille les yeux à la vue de l'homme qu'on attendait. Et il vient de loin. Il a fait le chemin depuis les États-Unis, mais il n'est pas américain, il est russe. Les États-Unis lui servent de terre d'asile. L'URSS l'a déchu de sa nationalité. Pourtant, c'est un prix Nobel de littérature. C'est un écrivain qui s'est attaqué au système soviétique dans son livre « L'archipel du Goulag ». Nourri de témoignages de rescapés, il a décrit ce que ce régime totalitaire faisait subir aux hommes et aux femmes. C'est bien sûr Alexandre Solzhenitsyn, l'un des plus féroces dissidents du régime soviétique. Avec sa longue barbe et son regard glacial, il s'avance devant une assemblée intimidée. Villiers lui échange une poignée de main devant la stèle et inaugure tous les deux ce monument à la mémoire des Vendéens. Mais quel est le rapport entre Solzhenitsyn et la Vendée ? L'écrivain russe l'explique lui-même. « Pour moi, dit-il, la Vendée est l'analogue exact de nos grandes révoltes paysannes contre les bolcheviques. » Antenne 2 est sur place.
La Révolution française s'est déroulée au nom d'un slogan intrinsèquement contradictoire et irréalisable. Liberté, égalité, fraternité. Mais dans la vie sociale, liberté et égalité tentent à s'exclure mutuellement, sont antagoniques l'une de l'autre. Car la liberté détruit l'égalité sociale, c'est même là un des rôles de la liberté, tandis que l'égalité restreint la liberté, car autrement on ne saurait y atteindre.
Tout le discours de Solzhenitsyn consiste donc à déconstruire la Révolution française comme la Révolution russe. Alors il applaudit. Quant au Puy du Fou, il assiste au spectacle de ces paysans qui crient vengeance et qui se soulèvent contre ce que Philippe de Villiers dépeint, une république qui anéantit ceux qui se mettent en travers de son chemin. Voilà donc une ruine de château qui, en 15 ans, a réussi à attirer un président de la République, deux premiers ministres, une foule de parlementaires et d'immenses noms comme Solzhenitsyn. Et en même temps que le parc se développe, la carrière de Philippe de Villiers décolle. De secrétaire d'État à la culture, il devient député et conseiller général. Alors que le parc construit une grande cité médiévale, il monte un parti, le Mouvement pour la France, et devient député européen. En 2001, le Puy du Fou fête ses 7 millions de spectateurs depuis sa création. Et tous se pressent pour voir le nouveau fort de l'an 1000, les invasions vikings et bientôt le bal des oiseaux fantômes. Alors que voit-on dans ces spectacles ? Eh bien c'est d'abord un grand divertissement. Ceux qui y assistent ne deviennent pas immédiatement de droite réactionnaire, bien sûr. Mais ce n'est pas l'histoire de France que le Puy du Fou raconte. C'est l'histoire de France selon Philippe de Villiers. On y trouve pêle-mêle une glorification de la religion chrétienne et de la paysannerie, des combats manichéens entre le camp du bien et celui du mal, le mal étant toujours celui qui vient de l'étranger, le viking ou l'armée révolutionnaire. En réalité, au Puy du Fou, on ne vient pas assister à l'histoire comme elle se passait avant, mais à l'histoire comme on la racontait avant. Le parc reprend tous les codes forgés par le roman national, les films et les livres sur les chevaliers, les Gaulois ou le Moyen-Âge, et qu'importe, si ces représentations sont fausses, on y est en terrain connu. On est au Puy du Fou, dit Philippe de Villiers, comme des exilés qui retrouveraient leur pays et leur civilisation. Et ce combat de civilisation, Philippe de Villiers le porte au-delà de sa région. Nous sommes en 2006.
Pour prendre la route de l'Elysée, il marche dans les pas d'un autre candidat, Jean-Marie Le Pen. L'eurosceptique Philippe de Villiers multiplie les slogans chocs et il les affiche pour la campagne. La France aux Français, l'immigration zéro, ou bien non au mariage homosexuel. Philippe de Villiers veut expulser par charter les sans-papiers. Il part en guerre contre l'islam. Et ici, cela ne choque personne.
Quand il parle d'islamisation de la France, ça vous choque ?
C'est une réalité, malheureusement.
Faut parler vrai. Les discours d'énarques, c'est terminé, ça.
C'est évident que dans notre pays, il vaut mieux avoir le langage de la France des bistrots que du Paris des bobos. Et c'est vrai que quand Philippe de Villiers fait sa sortie sur les milliardaires footballeurs qui donnent des leçons, ça fait un carton, on a des centaines d'adhésions dès le lendemain, Mouvement pour la France.
À l'élection présidentielle de 2007, Villiers se présente comme celui qui, à la droite de la droite, bénéficie d'une image respectable. Pas comme l'autre. Suivez mon regard. Bon, il ne récolte que 2,23%, mais son combat est ailleurs. Il se joue sur le terrain des idées réactionnaires qui, petit à petit, infiltrent la société française. En résumé, il y aurait une histoire officielle qui nous dissimulerait la vérité. Il existait dans le passé une France paisible, que des étrangers et des idées nouvelles sont venues perturber. La France est blanche, catholique et paysanne. Faisons un saut dans le temps pour conclure cette histoire. Le 20 mars 2016, le Puy du Fou a bientôt 40 ans. Et vu du ciel, il ressemble maintenant à une petite ville. Le bruit des chevaux qui trottent sur le bitume, décorés comme des sapins de Noël, drapés de tissus aux couleurs des régions environnantes. Les cavaliers ont enfilé des haumes et des armures. Ils tiennent fièrement des étendards de toutes les couleurs. Derrière, des hommes à pied brandissent des drapeaux encore plus hauts, avec fleurs de lys et blasons de grande famille. Ils défilent dans une haie d'honneur que leur font des militaires, sabres levés. Au milieu de ce cortège, une douzaine d'autres portent sur leurs épaules un grand reliquaire en bois, recouvert d'un drap bleu et gardé par un service de sécurité, oreillette de regard, qui scrute la foule. Parce que dans ce reliquaire, planté dans un coussin, il y a un anneau argenté. Le Puy du Fou l'a acheté pour 370 000 euros. Il est dit qu'il appartenait à Jeanne d'Arc. Bon, il est permis d'en douter, et les médiévistes ne s'en privent pas. Mais pour Philippe de Villiers, ça n'a aucune importance. Depuis quatre décennies, il écrit son histoire. Et elle n'a pas à être véridique, tant qu'elle impressionne. Maintenant, si l'histoire des Vendéens, victimes de la terreur de 1993, vous intéresse ou vous fascine, vous pouvez lire aussi l'historien de la fin du 19e, Émile Gabory, « Les grandes heures de Vendée », où il raconte ces nobles du pays des Alouettes, les Catlinot, Delbé, La Roche-Jacquelin, Charette, sur leurs fiers destriers, portant haut de forme à plume, et entraînant de pauvres paysans en massacre contre les terribles colonnes de Thurot, les sicaires de Robespierre. Oui, c'est une épopée, mais qui s'y frotte ses piques.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le Puy du Fou. Notre invité Mathilde Larrère. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste des mouvements révolutionnaires, dont le mouvement féministe, qui est un mouvement révolutionnaire, effectivement, et co-autrice surtout de l'ouvrage collectif Le Puy du Fou, écrit avec trois autres historiennes et historiens, Florian Besson, Pauline Ducret et Guillaume Lancereau. Alors, qu'est-ce que c'est Le Puy du Fou? Parce que franchement, ce titre vaut le détour. Le sous-titre aussi d'ailleurs, « Enquête sur un parc qui déforme l'histoire », c'est ce qu'on appelle « jeter un pavé dans la mare ». Pourquoi ?
Bah, le sous-titre, il dit exactement ce qu'est ce livre. En fait, c'est une enquête donc menée par deux historiens, deux historiennes. On est spécialiste des quatre périodes historiques, donc une antiquisante, un médiéviste, un moderniste, et moi j'étais la contemporaniste. On a fait une enquête, c'est-à-dire qu'on a lu, comme on doit faire quand on fait une enquête, des sources, de la bibliographie. On est allé sur le terrain, évidemment. On a passé plusieurs jours au Puy du Fou à regarder tous les spectacles, à prendre des notes, à ramener du matériel, et ensuite on a fait un travail collectif d'analyse. Et en fait, l'objectif pour nous était de travailler uniquement sur la façon dont le Puy du Fou traite l'histoire de France. On n'a pas travaillé sur les conditions de travail, le traitement des animaux, la solidité économique du système. Non, c'est comment était traitée l'histoire, le passé. Et notre conclusion était que, mais comme vous l'avez dit aussi, c'est une histoire instrumentalisée, déformée, orientée, et qu'il est intéressant de s'y pencher, d'expliquer pourquoi, d'expliquer comment.
Alors ces livres vous a valu, j'imagine, quelques réponses, voire des attaques, non ?
Oui, ça a été très violent et c'est assez d'ailleurs caractéristique des enquêtes sur le Puy du Fou. J'espère que vous n'aurez pas à les subir, mais vos confrères et consoeurs de compléments d'enquête l'ont largement testé. Moi j'ai trouvé ça très intéressant au demeurant, ces critiques. C'est des critiques qui viennent essentiellement de la droite conservatrice, de la droite catholique, de la droite réactionnaire, de l'extrême droite aussi, avec surtout tous les supports possibles, donc CNews, Valeurs Actuelles, donc les médias de cette frange politique, mais aussi les réseaux sociaux. C'était des critiques qui essayaient de délégitimer notre travail, hein, de le délégitimer par la moquerie, par exemple, en mode « bientôt ils vont aller Euro Disney et ils vont nous dire que la souris Mickey, c'est pas une vraie souris ». Enfin, comme si c'était comparable. Enfin, il s'agit pas d'un parc animalier Disney. Enfin, voilà, des choses comme ça. Ou alors, en délégitimant notre travail, en nous présentant comme, selon les personnes qui parlaient, on était soit des trotskistes à lunettes rondes, soit des islamo-gauchistes, soit des wokistes, enfin bon, des gauchias, hein, le mot revenait souvent, c'est-à-dire que c'était une position de gauche. Ce qui était intéressant, c'est que, en fait, en disant que nous n'avions parlé que de gauche, enfin, d'un point de vue de gauche, ça voulait dire que le Puy du Fou, quand même, était de droite. Mais bon, on va pas, voilà. Mais ça a pu être assez violent, hein. On a eu des menaces de mort, on a porté plainte à plusieurs reprises, hein, avec d'ailleurs des approches très genrées, c'est-à-dire que les deux garçons, Florian et Guillaume, étaient menacés du pal, hein, cependant que Pauline et moi, nous devions être brûlés comme des sorcières.
Bon, alors... La représentation de l'histoire au Puy du Fou est-elle contre-révolutionnaire ?
Ah ben, elle est très clairement contre-révolutionnaire, puisque la révolution est présentée sous les traits les plus négatifs, les plus sanglants, les plus sombres. Une matrice, hein, du totalitarisme, comme vous l'avez dit dans l'émission avant. Cependant, que tout ce qui relève de la contre-révolution est présenté sous un prisme qui peut être soit celui de l'héroïsation, soit celui du martyrologue. Mais donc, c'est très clairement une histoire contre-révolutionnaire dont De Villiers ne se cache absolument pas. Là, on n'a pas apporté grand-chose là-dessus. C'était déjà connu, d'autant que tout ce qui concernait le traitement de la révolution au Puy du Fou avait déjà été beaucoup travaillé par des collègues avant nous, que ce soit Jean-Clément Martin dont vous parlez, Guillaume Mazot, Chloé Le Prince, Michel Vauvel. Nous, on a essayé de couvrir l'ensemble de la couverture chronologique du parc.
Mais ça reste la révolution. Alors, quand je dis la révolution, la période terreur, hein, et l'incarnation de la terreur, Robespierre, bien Saint-Just aussi, Hébert, mais Robespierre. C'est toujours une affaire sensible. Je le disais, le cinéma s'est pas emparé de cette affaire. Il y a que Vajda qui a osé le faire.
Alors,
devant politique. C'est pas un Français.
Il y a la Marseillaise de Renoir en 1930.
Oui, mais je parle du cinéma contemporain.
Oui, hein. Mais qui est un film magnifique.
Ouais,
et par ailleurs, très intéressant. Hein, il en dit à peu près autant sur la France de 1936 qu'il ne raconte la Révolution. Mais il y avait Pierre Homer aussi, hein, qui a fait un film sur cette période. Mais c'est forcément, c'est une période chaude parce que la plupart de ce qui s'est joué comme conflit au moment de la Révolution. On continue à se rejouer tout le 19e siècle et se joue encore pour partie de nos jours. Donc, et puis parce que c'est extrêmement complexe, c'est-à-dire qu'entre 1789, 92, 93, 95, 99, hein, c'est compliqué la Révolution, ça ne se règle pas facilement. Non, ce que j'ai tendance à conseiller, moi, c'est la pièce. Bon, évidemment, le problème d'une pièce, c'est qu'on ne la revoit pas aussi facilement qu'un film, mais la pièce de Pommerat, ça ira Fin de Louis était, à mon sens, ce qui a été le mieux fait et le plus abouti pour montrer la Révolution française, du moins dans ses premières années.
Alors, le récit que nous avons fait est un récit critique, hein, simplement critique. On a entendu plusieurs fois Philippe De Villiers pendant le récit, c'est normal de passer la parole. Et en contrepoint, je voudrais qu'on écoute ensemble ce que dit l'historien Patrice Guénifet, grand spécialiste de la Révolution. Il a travaillé avec François Furet. Dans l'hebdomadaire La Ville, va à l'encontre de la majorité des historiens concernant le Puy du Fou. Écoutez.
Il n'y a pas d'intention maligne et conspirationniste de remettre en cause le récit républicain de l'histoire de France. Au contraire, la cinécennie fait entrer dans cette histoire la grande tragédie française qu'ont été les guerres de Vendée, qui reste un non-dit à gauche. La première partie du spectacle est plutôt catholico-royaliste anti-révolutionnaire, mais la deuxième réconcilie tout le monde dans le patriotisme au moment de la guerre de 14 et puis celle de 40. Ces guerres refont un peuple que la Révolution avait divisé. C'est une façon de dire que nous sommes les héritiers de toute notre histoire, même contradictoire. Alors oui, le récit est un peu simpliste. Mettre en scène l'histoire condamne à la simplification, mais il donne quand même une conscience du temps et permet l'identification et l'admiration.
Qu'en pensez-vous, Mathilde Larrère ?
C'est quelle date ?
2022.
Ah oui. Oui, si tard. Alors, c'est un peu exagéré parce que la question des massacres de Vendée, ça a été très très travaillé par les historiens. Il y a la grande somme, extrêmement documentée de Jean-Clément Martin et depuis énormément de travaux. Donc, dire que ça fait rentrer la guerre de Vendée dans l'histoire de France, là, et très largement en 2022, c'est absolument pas le cas.
Attendez, vous avez des souvenirs, vous êtes plus jeune que moi. Mais moi, je n'ai pas de souvenir dans les livres d'histoire d'avoir découvert cette guerre de Vendée, qui n'est pas la guerre des Chouans. Les Chouans, c'est tout l'Ouest, mais la guerre de Vendée est très spécifique. Moi, je ne l'ai pas appris à l'école.
Alors, moi, si. Mais de fait, quand on travaille sur les manuels, elle était présente. Hein, c'est pas du tout... qu'on en parlait moins avant les travaux de Jean-Clément Martin, parce qu'il y avait eu ce... Ben voilà, pour pouvoir faire rentrer l'histoire scientifique dans les manuels scolaires, il faut que cette histoire scientifique soit travaillée.
Donc, est-ce qu'on n'a pas noyé le poisson en mettant les Vendéens dans les Chouans ?
On a confondu, mais en même temps, on confond tellement de choses. je pense pas, pour reprendre l'expression de M. Guenifet, il n'y a pas de malignité dedans. Qu'il y ait eu à un moment, mais ça c'est antérieur, une histoire républicaine de la France qui tendait à minimiser les victimes faites par la Révolution, c'est bien sûr, mais ça fait quand même un petit bout de temps que c'est fini, cette affaire. Je réagis juste un truc quand il dit « la guerre de 14 a réconcilié tout le monde ». Mais comment un historien peut-il dire que la guerre de 14 a réconcilié tout le monde ? Enfin, les tensions sociales, pour ce qui m'intéresse, les tensions de genre entre les hommes et les femmes. Mais la guerre de 14 n'a rien réconcilié de tout cela.
Parlez-en aux Allemands.
Voilà. Alors certes, la guerre de 14 est le moment où l'Église rejoint et soutient la République. Mais c'est la seule réconciliation qui s'opère.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Mathilde Larrère, je rappelle que vous êtes historienne et l'une des quatre autrices et auteurs de l'ouvrage collectif intitulé Le Puits du Faux. Et dans votre livre, justement, il y a un terme qui revient beaucoup, roman national. Alors moi, je connais le récit national qui est adossé à l'histoire, mais je sais aussi que la fonction d'un roman, c'est de s'arranger avec la vérité. C'est ça que vous voulez dire, roman national ?
Alors en fait, l'expression, effectivement, elle est interchangeable, récit au roman national. Elle s'appuie sur les travaux pionniers, très importants, d'une historienne qui s'appelle Suzanne Citron, qui a écrit le livre sur les mythes nationaux, et qui, justement, analyse comment se sont construits, en fait, ce qu'elle appelle ces mythes nationaux. C'est cette histoire, mobilisant ces figures imposées, si l'on peut dire, mais aussi une écriture de l'histoire. Une écriture de l'histoire qui ne s'intéresse qu'aux grands hommes, à quelques grandes femmes, allez, on va dire Jeanne d'Arc, on va être gentil, qui oublie toute histoire sociale, toute histoire par en bas. Une écriture de l'histoire c'est ça qui est très très intéressant. Quand elle a été créée, cette écriture de l'histoire, et notamment sous la Troisième République, c'était pour faire aimer la France. L'objectif est de faire aimer la France. Et sous la Troisième République, aimer la France, c'était aimer la République.
Mais oui.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est reprise depuis quelques décennies, maintenant bien 4-5 décennies, mais par une droite conservatrice et souvent anti-républicaine, et elle est utilisée à l'envers, et c'est net dans le Puits du Fou, pour ne pas aimer la République.
Ici, ouais.
Et il y a eu cette inversion, que je trouve extrêmement intéressante.
Alors, le Puits du Fou, dans ce qu'il montre, et aussi dans les spectacles du parc, montre un rapport à l'altérité un peu compliqué. Hein. On a l'impression que tout ce qui vient de l'extérieur...
Ah, c'est pas bien.
Même jusqu'aux Vikings, ce qui vient de l'extérieur fait peur, et par nature, c'est pas bien.
Oui, de toute façon, c'est une approche très xénophobe, on peut la nommer, parce que effectivement, tout étranger est gênant. D'ailleurs, on le voit très bien visuellement, tous les étrangers dans les spectacles sont habillés de rouge et de noir, cependant que les Français, sachant qu'on peut parler des Français même quand c'est la Gaule du IIIe siècle, puisque pour le spectacle, les spectacles du Puits du Fou, la France existe pratiquement depuis Jules César. Bon, eux, ils sont en bleu et en blanc. Donc, c'est, visuellement, c'est très net. Ah oui, on a l'impression que ce qui vient de l'étranger n'a jamais rien apporté, ni en culture, ni en science, ni en échange, ni en métissage. C'est forcément quelque chose qui menace. Qui menace un ordre présenté comme heureux, vivant, la fête. Enfin, bon, il y aurait beaucoup à en dire.
Allons-y. Peut-on dire que le Puy du Fou a un impact politique sur celles qui le visitent? Alors, faudrait faire des sondages, mais bon.
C'est impossible à dire. C'est impossible à dire et je suis tout à fait convaincue que la grande partie des gens qui y vont, juste apprécient les spectacles qui, comme vous l'avez dit, et nous en sommes rendus compte, sont de très grande qualité.
Oui, c'est clair.
C'est très beau. Enfin, je veux dire, côté circassien, c'est très bon. La pyrotechnie est de très bonne qualité. Enfin, on passe un très bon moment au Puy du Fou et pour la plupart des personnes, voilà, ils n'y verront pas de problème. Nous n'étions pas là pour dire n'allez pas au Puy du Fou, etc. Mais parce que c'est notre métier d'historien, d'historienne, que d'analyser la façon dont un parc qui se revendique, les affiches, c'est l'histoire vous attend. Mmh. Bah, l'histoire vous attend, bah, les historiens, on va voir quelle histoire attend les spectateurs. Et on en a fait l'analyse parce que c'est notre travail.
Vaut mieux au mémorial de Caen, par exemple, si on veut
mais on peut
voir
le
l'histoire.
Mais on le, oui. Mais de toute façon, enfin, voilà, nous travaillons sur les mises en récit, nous travaillons sur les mises en spectacle.
Parce que c'est une bonne chose de mettre en spectacle l'histoire.
Mais bien sûr, mais le problème n'est pas là. De même que ni moi, ni aucun des auteurs, ni même aucun des historiens n'avons le moindre problème avec l'utilisation de l'histoire dans la fiction. Ça peut même être très drôle, même si c'est complètement anachronique, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a des spectacles au Puy du Fou qui commencent par, mesdames et messieurs, le spectacle auquel vous allez assister s'appuie sur une histoire largement authentique. Alors, largement authentique, qu'est-ce que ça veut dire?
Voilà. Ah, c'est ce largement,
comme tous les adverbes, vous le savez aussi bien que moi. Donc, mais en même temps, voilà, il y a cette idée d'authenticité. Et il fallait aller voir quelle histoire.
On va terminer par quelque chose d'archi-sensible, il nous reste une minute. Certains historiens voudraient qu'on reconnaisse le massacre, car il y a eu un massacre des Vendéens par les colonnes de Turot, comme un génocide.
Alors, ce n'est pas certains historiens, c'est un historien qui s'appelle Reynald Séché, qui a soutenu une thèse en 1985, une thèse qui a été soutenue devant un jury de complaisance, des gens qui étaient proches de son directeur de thèse, et qui ensuite a été très largement critiqué par les pairs à l'université pour des défauts, qui sont des défauts de méthode, absence de sources. Par exemple, quand on travaille a priori sur un, je mets plein de guillemets, génocide, on regarde des sources démographiques, ne serait-ce que pour pouvoir un peu voir ce qu'il n'a pas fait. Et ce terme ensuite a été récupéré par De Villiers, alors que Jean-Clément Martin est le premier à le faire, mais bien sûr d'autres après. Il n'y a aucun des éléments qui permettent de qualifier de génocide que l'on puisse retrouver dans les massacres de Vendée. Donc en fait, c'est une erreur scientifique, c'est une erreur de terme.
Bien. Merci infiniment.
Mais
pour,
merci à vous, hein, c'était un plaisir.
Cette analyse du Puy du Fou. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Puy du Fou, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.